Quelle joie et quel privilège pour moi de pouvoir encore aujourd'hui me tenir devant vous et vous apporter un message autour de la parole de Dieu. Et la semaine dernière, on a vécu un week-end extraordinaire sur tous nos sites à Nouvelle Vie. On a passé des temps incroyables avec le week-end de Pâques et sur l'ensemble du week-end, sur tous nos sites, c'est plus de 200 personnes qui sont venues pour les premières fois à l'espace Bienvenue à Nouvelle Vie. 200 personnes qui nous ont visités. Et alors qu'un article est sorti la semaine dernière et qui disait que au Québec, c'était l'endroit où les gens étaient les moins religieux que partout ailleurs et que même plus de 75% des Québécois seraient athées ou agnostiques. Malgré ces statistiques qui peuvent être tristes, désolantes, laissez-moi vous dire que sur tout l'ensemble de nos sites, on a battu des records d'assistance. Sur tous nos sites, on a eu des salles qui étaient pleines de gens qui avaient faim et qui avaient soif d'entendre la bonne nouvelle de Jésus. Et il y a 2 semaines de ça, j'étais à Nouvelle-Vie, Drummondville. Et j'ai pu constater les avancées et tout ce qui prenait place dans cette église qui a plus d'une heure et demie d'ici. Et laissez-moi vous dire que même si les chiffres disent qu'il y a de moins en moins de croyants au Québec, Dieu dépose une véritable faveur sur l'ensemble de nos sites. Dieu est en train de toucher des cœurs, Dieu est en train de toucher des vies, Dieu est en train de transformer des personnes, une personne à la fois sur chaque site, et on voit des choses extraordinaires sur chacun de nos sites. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à notre Dieu qui accomplit des choses incroyables en ce moment ? Et peut-être que ce matin, il y a des gens qui je vous dis tout ça et ça file pas des masses. Hein. Peut-être que ce matin, il y a des gens qui vivent par des difficultés et on sort d'une série sur le rêve de Dieu avec la vie de Joseph, mais toi, ça t'a pas comblé. On sort d'un week-end de Pâques extraordinaire où on a proclamé la mort et la résurrection de Jésus, mais toi, tu t'es réveillé lundi matin face à ta glace, toujours aussi triste, vide, déprimé, éloigné de Dieu, et même peut-être que tu es déçu par Dieu. Ouf, chose à pas dire. Ce matin, si c'est ton cas, j'ai un message pour toi. Ça fait plusieurs semaines que Dieu me travaille sur un message, et plus j'étudiais les passages que j'avais à cœur, et plus il y avait des choses qui ressortaient, et je crois vraiment que Dieu peut venir bouleverser ta vie si tu te mets à son écoute ce matin, si tu lui ouvres ton cœur, si tu y es attentif. Et pour ça, on va lire le témoignage de 2 personnes. 2 personnes qui avaient des plans extraordinaires, qui avaient des visions extraordinaires, qui vivaient des choses extraordinaires, mais qui finalement se sont retrouvées au fond du trou, totalement blessées, vidées et déçues. Et cette histoire, le plus incroyable, c'est que ça se passe le dimanche de la résurrection. Et on retrouve cette histoire en Luc 24, et on va lire à partir du verset 13, on va lire plusieurs versets ce matin. Luc 24, verset 13. « Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs. » Et ce même jour, on comprenait bien ici, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Et le village d'Emmaüs se trouvait à environ 11 kilomètres de Jérusalem, la ville où Jésus a été crucifié. Il parlait de tout ce qui s'était passé, de la mort de Jésus, de la trahison avec Judas, de tout ce qui s'était passé durant ce week-end-là. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas les événements qui s'y sont passés ces derniers jours ?»« Quels événements ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. « C'est un prophète puissant. Il l'a montré par ses œuvres et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir !» qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais en plus de cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé de corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce que vous ont annoncé les prophètes. » Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ? Puis, Il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait aller plus loin. Mais ils le retinrent en lui disant « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il rentra donc pour rester avec eux. Je trouve cette histoire vraiment incroyable. Et j'aime vraiment cette histoire. Quand on l'étudie, quand on prend le temps d'étudier, on se rend compte que c'est une véritable pépite. Cette histoire, c'est une mine d'or. Il y a tellement de choses. Et ici, on retrouve deux disciples de Jésus. Deux personnes qui ont vu les œuvres de Jésus s'accomplir devant leurs yeux. Ils avaient une foi énorme en Jésus. Ils le suivaient. Ils avaient plein d'espoir en Jésus. Probablement même qu'ils avaient passé des mois à suivre Jésus. Et le jour le plus incroyable de l'histoire, le jour où Jésus est ressuscité, eux, ils sont déprimés. Ils sont abattus. Peut-être comme toi, ce matin, t'as entendu comme eux au loin la résurrection la semaine dernière, mais comme eux, ça t'a pas rejoint. Ça t'a pas touché, ça t'a pas changé. Et on aurait le goût de leur dire « Hey guys, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que vous êtes si tristes ?» Et c'est presque ce que Jésus va faire en s'approchant d'eux et en cherchant à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ont un regard aussi attristé. Il faut comprendre pourquoi les disciples étaient tristes. La première raison pour laquelle ils étaient tristes, et il n'y a pas besoin de faire 3 ans d'études en théologie pour savoir cette réponse, ils étaient tristes parce que Jésus est mort. On comprend à leur réponse qu'ils sont vraiment peinés à cause de la mort de Jésus. Comprenez bien ici, mettez-vous à leur place. Ils ont vu leur mentor, leur maître, leur ami, celui qu'ils appelaient fils de Dieu, celui qu'ils appelaient Messie, subir les crachats, les coups de fouet, les insultes, l'humiliation, parce que mourir sur la croix à l'époque, c'était la pire humiliation possible. Et rien que tout ça, ça devait être une vision traumatisante. Et si vous êtes des personnes un peu visuelles comme moi, je vous invite à regarder La Passion du Christ de Mel Gibson pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Mais là, ce n'est pas attache ta tuque avec ta broche, mais c'est attache tes intestins avec ce que tu peux. Parce que le film est violent et nous donne un aperçu de ce qu'a probablement vécu Jésus. Et on peut comprendre vraiment pourquoi ils étaient tristes. C'est horrible de voir son ami vivre une telle chose. Mais ce n'est pas l'unique raison pour laquelle ils sont tristes. Ils sont tristes à cause de leurs espoirs différés. Et je m'explique ici. Les Juifs de l'époque attendaient un Messie qui allait chasser les Romains, qui allait faire d'Israël une nation puissante. Qui allait faire du peuple juif un peuple libéré, puissant et délivré. Pas comme la chanson « Libéré, délivré » là, de la Reine des Neiges, mais bien plus que ça. Et les disciples croyaient en ce Messie. Ils croyaient que Jésus allait être ce héros de guerre. Ils avaient des rêves de gloire. Ils attendaient un Messie qui allait les délivrer de l'occupation romaine, un peu comme les Ukrainiens qui attendent que l'Occident vienne les libérer de l'occupation russe. Ils attendaient que le Messie fasse d'Israël une nation puissante et forte. Un peu comme les Américains qui croient que leur nation est puissante et forte aujourd'hui. Ils attendaient un souverain politique, charismatique, fort, sage, qui allait redresser le pays et les remettre dans le droit chemin. Totalement l'inverse aujourd'hui du peuple français qui élit son président en ce moment-là. Ils rêvaient de tout ça. Mais à la place, leur héros est mort. Et Proverbe 13, verset 12 nous dit « Un espoir différé rend le cœur malade. » En d'autres termes, les disciples étaient déçus. Jésus les a déçus. Rien ne s'est passé comme ils l'avaient prévu. Rien ne s'est passé comme ils l'avaient espéré. Ils étaient censés être les personnes les plus proches du nouveau roi d'Israël. Et au lieu de ça, il fuit en cachette Jérusalem, tout triste, peiné. Les disciples ont été déçus par Jésus. Et peut-être que c'est le cas de plusieurs personnes ce matin. Peut-être que tu avais un objectif professionnel, tu avais un poste, tu avais une promotion, tu avais un job qui te faisait rêver. C'est ça ton plan. Et finalement, quelqu'un d'autre a eu la promotion. Ou pire, peut-être que tu avais partie des milliers d'employés qui ont dû se faire licencier par leur entreprise à cause de la Covid. Peut-être que certains s'imaginaient avoir des enfants, mais pour le moment, rien ne se passe. Ton plan ne se déroule pas comme prévu. Peut-être que certains même espéraient avoir un mari sortir du célibat, mais la Covid t'a encore plus coupé des autres. Peut-être même que tu as prié, tu as intercédé pour vivre un miracle, pour voir un miracle dans ta famille, dans ton corps, mais la situation s'aggrave. Il y a peut-être même des gens qui s'attendaient à ce qu'ils avaient une vision, un plan pour leur mariage. On va vivre ça, on va être au top, ça va être super. Puis finalement, brisure, conflit. Rien ne se passe comme prévu. Et tu te retrouves juste seul, avec tes espoirs, tes attentes, tes rêves brisés. Rien ne se passe comme prévu et Dieu t'a déçu. Et regardez comment les disciples réagissent à leur tristesse. La chose qu'il ne faut vraiment pas faire, suivre l'exemple des disciples ici. Les disciples ont quitté Jérusalem. Ils ont quitté Jérusalem. Et Jérusalem, il faut comprendre que c'était l'endroit où il y avait toute leur gang, tous leurs amis. C'était là où tous les autres disciples se trouvaient. Et eux, ils décident de fuir ce groupe, de s'isoler du groupe. Et peut-être que toi aussi, ta déception t'amène à vouloir t'isoler. T'es tellement blessé, il y a tellement quelque chose qui s'est passé en toi que tu veux juste t'isoler des autres. C'est pour ça que tu mets un masque le dimanche matin à l'église quand les gens te demandent « Hey, ça va bien ?» Par la grâce de Dieu, ça va. Alors qu'au fond de toi, t'es juste déçu par Dieu. Alors qu'au fond de toi, t'as juste une image d'un Dieu qui t'a abandonné. Et en soi, c'est un processus normal de vouloir s'isoler quand on souffre, hein, parce qu'on est tellement sensible, c'est un mécanisme de protection. Et cette semaine, même moi, j'ai vécu une terrible nouvelle, et quand je l'ai appris, j'avais juste une seule envie, c'était de m'isoler en boule dans ma chambre et attendre un mois que ça passe. Mais l'isolement n'a rien de bon. Une étude a montré que s'isoler, c'est très mauvais pour le cerveau. Parce qu'on n'a pas été créé pour être seul. La solitude a des effets néfastes psychologiquement, physiquement, émotionnellement, mais aussi spirituellement. Puis là, je vous entends. Parce que oui, du haut du stage, on entend les cœurs de certaines personnes. Il y a un groupe, je ne dirais pas lequel, qui est un peu en train de s'endormir. Et il y a un autre groupe qui est en train de se dire, « Ouais, mais là, pasteur, ils sont deux. Ils ne sont pas seuls. Ils sont deux. » Ça ne tient pas la route, ton affaire. Oui, ils sont deux. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a aucun pour tirer l'autre vers le haut. Les deux sont démoralisés. Les deux sont au fond du trou. Et la Bible nous dit qu'ils parlaient et discutaient. Et quand on comprend, quand on lit l'ensemble du texte, on comprend qu'ils ne parlaient pas de la neige le 19 avril au Québec. Hein. Ils ressassaient constamment leurs blessures. Ce qui s'est passé, trahison de Judas, mort de Jésus, souffrance. Ils le ressassaient constamment. Moi, quand j'étais aux études, on avait un groupe d'étudiants sur Messenger. Et dans ce groupe-là, on ventilait. On racontait toutes nos frustrations sur les profs, les frustrations sur l'administration, les frustrations sur les travaux. Moi, j'ai un caractère où j'ai besoin de ventiler. Quand il y a quelque chose qui se passe en moi, il faut que je ventile. C'est important de ventiler pour moi. Mais le problème, c'est que c'est important pour tout le monde de ventiler. Il n'y avait aucun pour tirer l'autre vers le haut. Et au final, à force de ventiler, c'était juste une tornade. Et ça a tout détruit sur le passage. C'était juste destructeur. Aucun pour essayer de sortir l'autre. Aucun pour essayer d'encourager. On était dans une spirale négative. La façon dont tu es entouré va déterminer comment va se passer cette saison de déception pour toi. J'ai regardé un reportage sur Netflix C'était un reportage sur le cerveau. C'est super intéressant, plusieurs épisodes comme ça. Et un épisode, c'était sur le lavage de cerveau. Et les chercheurs ont démontré que certains réussissent à se défaire de leur mauvais fonctionnement de pensée grâce à la communauté, grâce à ceux qui les entourent. Et c'était intéressant de voir que les individus qui étaient prêts à tuer des gens juste pour des choses qui nous semblent totalement folles, pour des convictions folles, étaient capables de faire un pas en arrière, étaient capables de sortir leur frustration, leur déception, parce que la vie de ceux qui les entouraient les amenait à changer et à prendre un pas de recul. Laisse-moi te dire que dans l'Église, par l'Église, ta vie peut changer. Tu peux retrouver la paix, tu peux retrouver la joie, tu peux retrouver l'espoir dans la communauté qu'est l'Église. C'est pour ça qu'Hébreux 10, verset 24 nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Ne reste pas seul dans ton coin ou mal accompagné, parce que tu risques de passer de quelque chose de merveilleux pour ta vie. » Et tous ceux qui croient à la merveille de l'Église disent un grand Amen ce matin. On a un bon participant là-bas. Il a dit un Amen plus fort que vous, hein, je tiens à dire. Et Jésus s'approche de ces deux personnes-là, de ces deux disciples déçus. Et j'aime l'intervention de Jésus. J'aime son intervention. Et il va leur révéler deux choses qu'il nous révèle aussi à nous ce matin. Il va leur révéler premièrement qu'il y a une différence entre nos plans et son projet. Jésus va leur montrer que leur conception qu'ils avaient du Messie, de ce que devait être le Messie, était une erreur. C'est pour ça qu'il leur dit au verset 26, « Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» C'est comme si Jésus leur montrait que eux, ils avaient un plan. Vous aviez un plan de victoire sur les Romains. Vous aviez un plan de délivrance sur les Juifs. Vous aviez un plan de finir ministre du gouvernement du Messie. C'était ça votre plan, mais moi j'avais une mission. Moi j'avais un projet. Obéir à mon Père. Moi mon but, c'était bien plus qu'une victoire sur les Romains. Mon but, c'était une victoire sur le diable et sur le péché. Vous aviez un plan, être délivré des Romains. Mais moi, mon but, c'était de délivrer toutes les personnes qui allaient venir à moi du péché et de la mort. Qu'ils soient juifs, non-juifs, grecs, femmes, hommes, hommes libres, esclaves, peu importe, c'était de les délivrer du péché et de la mort. Vous aviez comme plan de finir ministre de mon gouvernement, mais moi, mon projet, c'était de vous faire de vous des filles et des fils de Dieu. Vous aviez même comme plan de fuir Jérusalem, de vous cacher à la vue de tous et de chialer sur toute la route. Mais moi, mon but pour vous, c'était de venir à votre rencontre et de vous démontrer que toute la parole, tout l'Ancien Testament, c'est à propos de moi, que je suis fidèle. Jésus recalibre leur plan avec son grand projet. Vous vous souvenez de Joseph ? On en a parlé pendant plusieurs semaines. Et Joseph, lui aussi, il avait des plans, lui aussi il avait des projets, il avait des rêves, c'était de gouverner, c'était d'être au-dessus de tout le monde. Et finalement, Joseph vient à être rejeté par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison. Son plan ne s'est pas du tout déroulé comme prévu. Il n'y a rien de ce qui s'est passé comme prévu. Parce que le projet pour la vie de Joseph, c'est qu'il sauve un peuple, c'est qu'il soit le dirigeant d'une banque alimentaire et qu'il vienne même à sauver ses frères. C'est pour ça que Joseph va dire à ses frères, quand après les avoir sauvés, Joseph va leur dire en Genèse 50, verset 20, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Et il faut que quelqu'un l'entende ce matin. Dieu peut changer ton rêve déçu. Dieu peut changer en bien ton plan qui a été brisé. Dieu peut changer ta perception de lui. Alors que tu le vois actuellement que comme un Dieu qui t'a déçu, Ce matin, il veut te révéler qu'il est un Dieu qui t'aime. Qu'il y a un Dieu qui a attention, qui porte une attention particulière sur toi et qui sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir des réponses à tes questions, à tes « pourquoi ça ne s'est pas passé comme prévu ?»« Comment ça se fait ?»« Où ça se fera ?» Tu n'as pas besoin d'avoir des réponses à tes questions, tu as juste besoin de comprendre que Dieu a un plan pour ta vie. Tu dois juste croire qu'il a un but pour ta vie et que tu dois lui faire confiance. Le projet de Dieu pour ta vie est bien meilleur que tes plans à toi. Moi, en 2015, quelques années de ça, je rêvais, j'étais dans une saison où je rêvais de partir à l'école biblique. Et j'en avais trouvé une en France. Je vivais en France à l'époque. Et j'en avais trouvé une et je me disais, OK, c'est cool. Je vais commencer à remplir un dossier de candidature. C'est le moment pour moi, je vais aller à l'école biblique. Et en même temps de ça, je préparais des examens. Je terminais 3 ans à l'université en économie. Et c'est ça, je faisais ces deux choses en même temps. Et honnêtement, je n'avais pas très révisé pour ces examens-là. Je n'arrivais pas à comprendre, moi, toute l'économie. Les gens me demandent « Ah, c'était bien tes cours d'éco ?» Je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Mon cerveau n'arrivait pas à se calibrer avec les cerveaux des professeurs. Mais je persévérais, j'essayais d'étudier quand même. Et je priais fort. « Seigneur, viens m'aider parce que là, ça prend un miracle. » Et je priais fort et je sentais une paix. Que Dieu allait venir faire un miracle. C'était sûr. Et la semaine se passe et je prie, et puis j'essaie de faire mon maximum. Et à la fin, échec. Pas de miracle. J'étais déçu. Et en plus de ça, mon projet de partir à l'école biblique tombe à l'eau. J'étais comme, mais il est où Dieu là ? Mon plan, c'était ça. J'avais tracé un plan qui me semblait être parfait aux petits oignons. Et tout tombe à l'eau. Et en plus, ça me faisait rater pour la deuxième fois ma troisième année. Honnêtement, là, niveau orgueil, redoublé. Ça pique. Ça se passe pas comme prévu, là. J'étais honnêtement dépité et déçu de Dieu. Mais j'étais loin de me douter que cet échec qui a amené aussi l'échec de la rentrée à l'école biblique m'avait permis d'avoir mon mois d'août de disponible. Parce que le mois d'août, ça devait être la rentrée à l'école biblique. Et j'étais loin de me douter que mon meilleur ami à l'époque m'appelle et me dit « Hey Flo, au mois d'août, je pars en vacances, je pars au Portugal avec mes parents et avec mes deux sœurs, mais le problème, c'est que mon petit frère ne veut pas venir. Donc, est-ce que tu veux venir ?» Well, pourquoi pas, je veux dire 17h30 de route aller, 17h30 de route retour. Avec les mauvaises nouvelles que je viens d'entendre, ça peut être pire. Mais ok, let's go. Et une photo à la diapo 21 va apparaître à l'écran. Et ça, c'est moi avec mon meilleur ami et ses deux sœurs. Et pour ceux qui ne l'ont peut-être pas reconnue, la fille en jaune, c'est Julie, ma femme. Et c'est durant ces vacances au Portugal qu'on a commencé à se mettre ensemble. J'avais un plan, mais Dieu avait son plan pour moi. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Toi, tu n'as peut-être qu'un aperçu de l'image. Tu n'as peut-être qu'un petit point d'une image, mais Dieu a la big picture. Dieu voit l'ensemble. Tu peux lui faire confiance. Parce qu'il ne va pas t'abandonner. Et Jésus ne change pas. Jésus ne change vraiment pas. Il demeure fidèle. Et c'est même la deuxième chose qu'il apprend à ses disciples. C'est qu'il est fidèle et qu'il ne change pas. On pourrait croire que la résurrection a changé de quoi chez Jésus ? Parce que les disciples qui ont passé des mois et des mois avec lui ne le reconnaissent même pas. Et des théologiens ont essayé de savoir pourquoi ils ne l'ont pas reconnu. Et il y en a qui se disent parce qu'il y avait comme un voile devant leurs yeux. Et il y en a d'autres qui disent parce que Jésus est ressuscité dans un corps qui est glorifié, qui est dans un nouveau corps. Et on ignore pourquoi ils ne l'ont pas vraiment reconnu. Mais dans tous les cas, Si la résurrection a peut-être changé le corps de Jésus, ça n'a pas changé son cœur. Et suivez-moi bien ici, je sais qu'on arrive vers la fin du message, donc suivez-moi bien ici. On ne sait même pas qui sont ses disciples. On ne sait pas qui sont ses disciples. La Bible nous dit que l'un s'appelle Cléopas. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du disciple Cléopas ? Pas Cléopâtre, hein. Cléopas, avec un S, comme super inconnu. Et l'autre disciple, on n'a même pas le nom. Et il y a une tradition dans l'Église, dans l'Église qui a duré pendant quelques siècles, il y a une tradition qui dit que Cléopas aurait peut-être été l'oncle de Jésus. Et que le disciple inconnu aurait été l'auteur de l'évangile, donc Luc lui-même ici. Il y en a d'autres qui nous disent que c'est Cléopas et le compagnon inconnu, c'est sa femme. Et après avoir étudié, après avoir vraiment cherché à comprendre, à lu plusieurs commentaires et plusieurs choses à ce sujet, j'ai trouvé la révélation aujourd'hui. 24 avril 2022, j'ai trouvé la révélation, c'est que nous n'en avons aucune idée. Mais c'est ça le point, c'est que ce sont des gens ordinaires. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus va se révéler à eux. Ils font partie des premières personnes à qui Jésus va se révéler. Jésus vient de ressusciter et il décide de se révéler à eux. Qui est d'accord pour dire que Jésus devrait revoir ses cours en marketing, en autopromotion ? Concrètement, là, il y a quelque chose qui bug là. Jésus vient de ressusciter. Il vient de remporter la victoire finale sur la mort, sur le péché. Il vient de révéler au monde entier qu'il est le Messie, le sauveur du monde. On pourrait croire que Jésus se serait révélé à un Jules César qui se prenait pour le Dieu sur terre. Il aurait pu apparaître à dire « Boum ! C'est qui le patron maintenant ?» Il aurait pu se révéler à Pilate. « Toi qui t'es lavé les mains, regarde les mains percées, je suis là. » Il aurait pu se révéler aux pharisiens qui l'avaient condamné, qui l'avaient jugé par jalousie. À quelqu'un de connu. C'est le moment de rayonner, Jésus. Même il aurait pu se révéler à Pierre. Pierre qui était sous la culpabilité d'avoir trahi Jésus. Mais non. Jésus va avoir des gens qui vivent une situation qui paraît moins grave que celle de Pierre. Jésus se révèle à deux parfaits inconnus. À des personnes qui auraient pu dire, comme nous, des fois on dit, « Non, mais c'est vrai que ce que je vis, c'est difficile, mais il y a pire que moi. » Jésus décide de se révéler à eux. Et ça nous montre quelque chose d'extraordinaire sur le cœur de Jésus, c'est que la résurrection n'a pas changé le cœur de Jésus. Jésus, avant sa mort, dans tous les évangiles, vous pouvez lire dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, il a béni, il a changé, il a touché, il a transformé des centaines et des centaines d'inconnus, dont on n'a même pas idée, on ne sait même pas qui c'est. Qui est la femme samaritaine ? Qui est la femme à la perte de sang ? On n'a même pas leur nom. Plein de personnes que Jésus a touchées dans l'évangile sont des inconnus. Et lorsqu'il revient à la vie, Jésus prend encore soin des gens qui sont ordinaires, qui ont de la difficulté à comprendre, qui ont des doutes, qui se disent même déçus par lui. Et si tu as l'impression ce matin d'être une personne perdue dans la masse, Jésus te regarde. Jésus te voit. Tu ne passes pas inaperçu aux yeux de Jésus. Jésus ne se révèle pas uniquement aux pasteurs. Il ne se révèle pas uniquement aux riches. Il ne se révèle pas uniquement à ceux qui le méritent, à ceux qui n'ont jamais commis de fautes graves dans leur passé. Jésus se révèle à tout le monde. Et même si tu as l'impression d'être seul, avec ta déception, avec ta tristesse, et même si tu as l'impression d'avoir été oublié par Jésus, tu le vois peut-être pas, mais il marche à tes côtés en ce moment. Alors que tu dis, « Hey, je suis déçu par toi, Dieu, il est juste à côté de toi. » Et il marche avec toi. Et il t'écoute. Et il t'entend. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre. Être déçu par Dieu, ça arrive à tout le monde. Parce que nos envies ne sont pas toujours alignées avec le plan et la volonté parfaite de Dieu. Et parfois, peut-être même que Dieu ne va même pas te révéler pourquoi tes plans ne se sont pas accomplis. C'est vrai que tout à l'heure, je vous ai raconté le contexte un petit peu dans lequel on s'est mis en couple avec Julie. Et cette histoire, effectivement, finit bien parce que j'ai vu pourquoi ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il se passe des choses que nous ne comprenons pas et que nous ne comprendrons jamais peut-être. Mais on doit juste lui faire confiance. Et moi aussi, il m'est arrivé d'autres fois, je me sentais plusieurs fois déçu par Dieu alors que je ne comprenais pas tout. Mais il y a des fois où je ne comprenais pas. Il y a plusieurs années de ça, je vivais dans le sud de la France et dans le nord de la France, on a eu un décès dans la famille. Et je me disais, Seigneur, je suis déçu. Je suis en plein examen là, il me restait une semaine d'attente et j'aurais pu voir mon proche qui est décédé et finalement je ne l'ai pas vu. Et c'est en plus dans une saison de ma vie où je commençais à m'éloigner de lui, à m'éloigner de l'église et cette déception-là a encore plus entraîné parce que j'ai ruminé sur ma déception. Comme les disciples, je me suis isolé, j'ai ruminé sur ma déception. Et j'ai lâché l'église pendant plusieurs années. Pas seulement à cause de ça, mais ça a été aussi l'une des causes. Et après 5 ans, j'étais arrivé à un point dans ma vie, certains connaissent mon témoignage, mais j'étais arrivé à un point dans ma vie où j'étais mal. Clairement, j'étais dans une situation malaisante. Et ça prenait un miracle. Ça prenait un miracle que Dieu vienne m'aider. Et je me suis dit, OK, on va revenir à prier alors. Et plus je priais pour être délivré de ma situation, de mes circonstances, et plus ça s'empirait. Pourquoi, Seigneur ? Tu ne m'as pas assez déçu, là ? Et là, tu me déçois encore ? Pourquoi ? Mais comme les disciples, alors que les disciples marchaient avec Jésus, Jésus semblait continuer sa route à un moment donné. Mais les disciples ont dit « Non, reste avec nous. Viens dans notre maison. Ne sois plus l'inconnu qui marche à nos côtés, mais viens dans notre intimité. » Et j'ai commencé à faire ce genre de prière aussi. « Viens dans mon intimité. Viens dans mon cœur, Seigneur. Pardon pour mes fautes. Viens à moi. » Et il m'a bouleversé. Il est venu dans mon intimité le jour où je lui ai dit « Entre, s'il te plaît. » Je n'ai jamais eu la réponse à mes pourquoi. Pourquoi ça s'empire ? Pourquoi ça s'aggrave ? Pourquoi je n'ai pas pu voir le membre de ma famille qui est décédé ? Pourquoi, Seigneur ? Je n'ai pas eu la réponse à mes pourquoi, mais j'ai eu une réponse à une question que je ne m'étais jamais posée. Et la réponse, c'est la résurrection. Que Jésus est ressuscité pour marcher à mes côtés. Et ce matin, si toi en ce moment aussi tu es déçu par Dieu, pour quelque raison que ce soit, si tu es déçu par Dieu, regarde à la croix. Si tu es déçu par Dieu, regarde à la résurrection. Si tu es déçu par Dieu, regarde. Il marche à tes côtés en ce moment. Tu le vois peut-être pas, tu le sens peut-être pas, mais il m'a donné ce message pour toi. Il marche à tes côtés ce matin. Alors que tu es déçu par lui. Alors que tu sens que tu es déçu par lui. Lui reste près de toi. Car il t'aime. Et si au lieu de le laisser marcher sur le côté, tu l'invitais encore plus dans ta vie ce matin ? Si au lieu de juste expérimenter un Jésus qui semble être loin, distant, un inconnu, si tu faisais de lui un proche. disciples, quand ils ont fait ça, quand ils l'ont invité dans leur maison, on lit la suite du message, du texte, vous pouvez le lire chez vous, mais on voit les disciples après dire, et il y avait un feu qui brûlait en nous parce qu'on a invité Jésus chez nous. T'as besoin d'un nouveau feu. Ne cherche pas tes réponses à tes prières, mais cherche Jésus. Et je vous invite à baisser vos têtes ce matin. On va rentrer vraiment dans un temps de prière. Si en ce moment tu sens que tu as été déçu par Dieu, tu as besoin juste d'un renouveau, peut-être comme ses disciples, d'une nouvelle révélation de Dieu pour ta vie, pour tes situations. Tu te sens peut-être vide ce matin, peut-être que même tu sens que ta coupe est vide, tu as encore un voile qui est devant tes yeux, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu es comme ses disciples. Ça te parle vraiment cette histoire à ces disciples-là. Si c'est ton cas, je veux juste t'inviter ce matin à faire de Jésus ton invité. À faire de Jésus plus qu'un étranger, un Dieu qu'on loue et qu'on proclame de loin, mais à faire quelqu'un de proche en ton cœur. Il peut restaurer ta vie ce matin. Il peut restaurer ton cœur. Il peut restaurer la vision que tu as de lui aujourd'hui. C'est ton cas, je veux juste t'inviter à lever la main pour qu'on puisse prier pour toi.